Frères et sœurs, à la lecture des deux premières lectures avant l'Évangile, nous pouvons être choqués par plusieurs choses. C'est pas facile d'ailleurs de faire une homélie pour expliquer ce qui, quand il y a plusieurs choses qui nous choquent. La première chose, c'est ce que dit le peuple. En tout cas, Moïse rappelle une parole du peuple au pied du Sinaï qui dit... Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur, mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et Moïse rappelle que le Seigneur a dit, ils ont bien fait de dire cela. Et là, on ne comprend pas grand-chose, on se demande comment Dieu peut-il accepter une parole pareille. Sinon que cette parole vient effectivement de celui, ou de ceux, le peuple saint, qui conscient... de sa misère, de son péché, de son manque de sainteté, voit bien qu'il ne peut pas s'adresser à Dieu, l'infiniment saint, comme ça. Que la sainteté de Dieu est presque écrasante. Et qu'il lui faut un intermédiaire, il faut quelqu'un qui lui permette de rejoindre celui qui est saint. Et Moïse avait fait cela. Moïse avait été ce grand prophète qui a conduit le peuple pendant des années. Et voilà que Moïse est sur sa fin. Et le peuple ne se sent pas prêt à entrer en relation directe, on pourrait dire, avec le Seigneur. Mais ça n'est pas un refus de Dieu. C'est une conscience de l'infinie sainteté de Dieu. Et du coup, la constatation de cet immense fossé qui nous sépare. Comment la créature peut-elle s'adresser au Créateur? Comment la créature marquée par le péché peut-elle rejoindre le trois fois saint? Alors Moïse fait la promesse d'un nouveau prophète. Alors si on veut entendre un peu vite, on dit ben, ce sera Jésus, mais ce n'est pas tout à fait ça. Après Moïse viendra Josué qui fera entrer le peuple saint dans la terre promise. Et Josué, donc, c'est lui qui va remporter des batailles, installer le peuple dans la terre que Dieu donne. Mais on comprend bien qu'il faut plus grand que ça. Mais Josué, le nom Josué, c'est déjà en hébreu le nom de Jésus. Et voilà que se profile, juste à la suite de Moïse, un prophète qui, même par son nom, annonce un prophète encore plus grand, Jésus. Ça, c'est une première difficulté. Et puis, la deuxième difficulté, c'est ce passage de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, où on se dit, oulala, saint Paul ne fait pas vraiment l'éloge du mariage. Et on peut être choqué par ça. Que veut dire saint Paul? Je vous laisse avec la question pour l'instant. On va voir si à la fin, j'en donnerai au moins l'ébauche d'une réponse. Et puis l'Évangile. Et Jésus, au tout début de sa vie publique, dans l'évangile de saint Marc, c'est vraiment le commencement, Jésus, dans la synagogue de Capharnaüm, est reconnu comme celui qui parle bien, qui enseigne, qui a autorité. On veut l'écouter, un peu un enseignement, une personne morale, quoi, un bon guide. Et voilà qu'au milieu de la foule s'élève une voix contradictoire. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais très bien qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Et cette voix nous dit saint Marc, et la foule le constate bien, hein, cette voix, elle émane d'un homme possédé par un esprit impur. Ah ben revoilà cette impureté qui... est l'inverse de la sainteté de Dieu. Et voilà pourquoi l'esprit impur s'inquiète. Tu es le Saint de Dieu. Et devant la sainteté de Dieu, il sait qu'il ne tiendra pas longtemps. En tout cas, Jésus, au tout début de sa vie publique, avant même d'être connu pour les miracles qu'il fait, les guérisons des malades, Jésus s'affronte à l'ennemi le plus grand, le mal au sens du malin. Et donc Jésus se révèle à nous comme celui qui n'a pas peur de s'affronter au mal et qui même en sort victorieux, non pas seulement d'une parole « sort de cet homme », même si c'est déjà bien, hein, il commande aux esprits impurs, dit la foule. Mais nous le savons, la victoire du Christ sur le mal, c'est la victoire sur toutes les étapes du mal, toutes les manifestations du mal. Alors, c'est là, parce qu'il faut que ce soit flagrant pour reconnaître Jésus, c'est là le mal dans cette notion de possession, d'emprise sur quelqu'un. Mais nous savons aussi que le mal se manifeste par tous les désordres, en fait, dans notre vie, à commencer par le désordre de la maladie. Ce n'est pas Dieu qui a créé la faiblesse du corps, la maladie du corps. Et donc, c'est une manifestation du mal. Et puis, nous savons que le mal se manifeste aussi dans nos complicités. Pas seulement le mal extérieur qui nous atteint, pas seulement la maladie qui nous affaiblit, mais la complicité de notre volonté avec le mal. Et on appelle ça le péché, tout simplement. Le péché, ce n'est pas une affaire d'interdit. Ce n'est pas juste ça, ce serait trop banal. Le péché, c'est le refus de Dieu. C'est justement de laisser son cœur, de laisser sa force intérieure pencher vers ce qui n'est pas Dieu, ce qui est opposé à Dieu. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ?» Voilà, ça, c'est celui qui s'oppose à Dieu, c'est le malin, le mal au sens du malin. Et quelquefois, nous lui sommes complices, hein, quand même. Donc le péché, et puis bien sûr, la dernière manifestation du mal, celle qui est peut-être la plus pernicieuse, parce que celle qui n'a, semble-t-il, aucune échappatoire, c'est la mort. Dieu n'a pas créé la mort. Et voilà que Jésus s'affronte à tout cela. Jésus dénonce le mal, Jésus guérit le mal, Jésus libère du mal par le pardon. Jésus traverse le mal en traversant la mort, en se laissant atteindre par la mort et en ressuscitant. Voilà la victoire de Jésus sur le mal. Et voilà l'identité du Christ, celui qui est victorieux. Et voilà comment nous sommes invités aujourd'hui à l'accueillir. Alors, est-ce que c'est juste un accueil comme ça, extérieur ? Ah Seigneur, je vois bien, tu es plus fort que le mal, tant mieux pour nous. Mais en fait, Jésus, il veut nous inviter à collaborer à cette victoire. Nous savons très bien que le Seigneur ne nous sauvera pas sans notre oui. Alors, de manière très, très simple, on pourrait dire, très immédiate, lorsque Jésus nous apprend à prier, qu'il nous laisse le Notre Père, il nous fait dire, comme dernière demande du Notre Père, que nous disons peut-être très souvent, peut-être même sans trop d'attention, « Délivre-nous du mal ». Nous concluons quand même notre prière sur cette parole-là. « Délivre-nous du mal ». Ça veut dire que c'est une confession de foi en la puissance du Christ. Mais en même temps, une demande d'être associé dans cette lutte contre le mal. Encore une fois, de faire servir notre volonté dans le sens de la victoire de Dieu sur le mal. Et surtout, me semble-t-il, dans cette demande du Notre Père, c'est une confession de foi en la résurrection. Car la victoire sur le mal, elle est déjà acquise. Elle est déjà là. Jésus est déjà ressuscité. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et de génération en génération, depuis tant d'années, depuis tant de millénaires, nous sommes là parce que le Christ est ressuscité et que nous sommes participants de cette victoire. Cette semaine, avec le Secours catholique, nous avons méditer justement sur le Notre Père. Peut-être savez-vous que le pape François, dimanche dernier, a fait entrer l'Église dans une année consacrée à la prière, en vue du jubilé de 2025. Et ce qu'il a demandé, c'est que justement le Notre Père soit un peu le cœur de cette année de la prière. Non pas simplement comme une prière récitée et rabâchée, mais comme une prière vécue. Ben voilà, une bonne occasion de se rappeler que à chaque fois nous disons « délivre-nous du mal » et qu'il faut que ce soit concret dans notre vie. Quelle victoire donnons-nous à Jésus sur le mal dans notre vie? Quel engagement est le nôtre aux côtés de Jésus pour être victorieux du mal? Et puis il me semble que cette dernière demande, « délivre-nous du mal », elle nous rappelle que si aujourd'hui le mal semble encore à l'œuvre, même si nous savons que Jésus en est victorieux par sa résurrection, un jour promis, le monde triomphera, entrera dans ce triomphe définitif sur le mal. Et ce jour promis, c'est le jour où tous nous serons dans la béatitude de Dieu, dans la sainteté de Dieu, puisque nous avons été créés pour ça. Et alors, un peu comme le début du Notre Père qui nous fait regarder vers le ciel, Notre Père qui est aux cieux, qui nous fait lever les yeux vers Dieu, cette dernière demande, délivre-nous du mal, elle nous rappelle cette victoire définitive à laquelle nous sommes promis. Le monde parfait, et non plus blessé par Satan qui a mis du désordre. Et voilà la clé de compréhension de la deuxième lecture, cette espèce de concurrence qui nous semble hein, dans les paroles de saint Paul entre le mariage et le célibat consacré. Que veut nous dire saint Paul? Il ne faut pas trop prendre au pied de la lettre. Il faut comprendre que saint Paul dit ceux qui ont consacré leur vie à Dieu d'une manière totale dans le célibat, celui-là sont signes du royaume à venir. Ça n'est pas dénigrer ce qui se vit sur la terre, c'est rappeler aux hommes, à tous les hommes, que nous sommes faits pour l'éternité en Dieu. C'est une parole de saint Paul, non pas à prendre de manière négative, mais à prendre de manière positive. Nous avons sans cesse besoin d'être rappelés à ce grand mystère, à notre grande vocation. Nous sommes faits pour l'éternité en Dieu. Et du coup, tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre, y compris le mariage, la vie de famille, est beau et grand s'il est lui aussi orienté vers le royaume éternel. Et voilà pourquoi il n'y a aucune concurrence, aucune opposition entre le célibat consacré et le mariage. Mais il y a plutôt une belle complémentarité où l'un et l'autre marchent vers le royaume, sont signes du royaume. Amen.